positive onde.
Il est 4h30 du matin.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Oui, bon, ok. Il est 6h du matin et nous allons visiter aujourd'hui un lieu très particulier. J'en dis pas plus. On va découvrir ensemble. Bonjour.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Bah ouais, bah bienvenue.
Céline?
Oui, tout à fait.
On va découvrir plein de choses ensemble aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, c'est chouette.
Ouais, bah merci à toi de venir et pour le coup, prépare ton micro.
Eh bah allez, c'est parti.
Je m'appelle Céline Basset et je suis la fondatrice de l'association Blue Soil, qui fait de la recherche, du développement, des actions de sensibilisation pour tout ce qui est protection et régénération de l'environnement et qui propose aussi des outils de transition alimentaire et agricole. Cette action, elle a commencé en 2014. À l'époque, j'étais à Brooklyn, New York, aux États-Unis, suite à une petite infection du microbiote intestinal. J'ai regardé dans l'assiette qu'est-ce qui déconnait, qu'est-ce qui m'avait rendu malade. Et c'est là que je suis retournée à la terre et que j'ai regardé de plus près qu'est-ce qu'on avait dans notre assiette et comment c'était cultivé. Après, il y a eu l'Asie, où j'ai testé à grande échelle, on va dire, les protocoles expérimentaux. Je me suis intéressée à la terre, mais aussi à l'eau. Et donc, il y a eu une première ferme expérimentale au Vietnam. Puis après, il y a eu un projet en Birmanie où il fallait dépolluer une décharge à ciel ouvert. Donc là, du coup, c'était vraiment de la pure expérimentation. Donc ça, c'était les deux réalisations en Asie. Et puis plus récemment, j'ai développé une autre ferme expérimentale donc, dans le sud-est, en France.
C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. La ferme Blue Soil propose des outils de transition et de résilience face aux vulnérabilités alimentaires liées aux bouleversements climatiques, environnementaux, énergétiques, politiques et sociaux dans le monde. On va visiter et suivre les actions, notamment de recherche et de développement, pour en savoir beaucoup plus sur Blue Soil.
Alors ici, on est sur grosso modo une parcelle de 3000 m². C'est bien assez pour une petite personne comme moi. On a une serre qui fait 75 m². Et donc dans la serre, il y a un système de microbioponie qui a environ 7000 à 8000 litres d'eau qui circule non-stop. Et dans le champ, on a 2700 et quelques mètres carrés et, qui sont donc en pente. Et on a un petit bout de bois juste à côté en lisière.
C'est l'heure de remonter ses manches.
Ce matin, on accueille Corentin et Jeanne.
Enchanté.
Enchanté tout le monde.
Qui sont donc en stage cet été. Et là, pour le coup, bienvenue aussi à toi, Seb. Parce qu'on va faire le petit tour de la ferme. Et on va regarder en fait qu'est-ce qui a été fait depuis l'année dernière. Donc voilà, justement. Et puis pour le coup, on va recueillir un peu les impressions. Parce qu'ils étaient là sur les chantiers participatifs l'année dernière, juste avant le premier confinement.
Donc on a eu l'occasion de contribuer au projet. En fait, on fait partie d'une école qui est située à Lyon, qui s'appelle Supécolidaire, et qui est du coup une école qui est centrée sur l'écologie, la citoyenneté et la solidarité. Et en fait, par le biais d'amis de promotion, on a vu qu'il y avait un chantier participatif qui se faisait à cet endroit-là. Et on a foncé du coup avec des amis, et pas déçus, parce que ça a été des jours assez costauds, mais dans la bonne humeur. Et puis là, on va voir le produit fini. Donc,
allez, on y va?
C'est parti.
Il y a beaucoup de personnes en fait pourraient penser qu'ici c'est complètement laissé en friche ou que c'est pas traité ou enfin tu vois que c'est pas taillé comme il faudrait, mais en fait toutes ces plantes là elles sont hyper importantes. Par exemple, je regarde à quelle heure les fleurs s'ouvrent, à quelle heure les pollinisateurs arrivent en fonction du lever du soleil, à quelle heure les fleurs se referment. Et c'est surtout aussi toute cette petite partie ici qui est comme une petite haie. Mais en fait, si je coupais le chardon, si je coupais par exemple la saponaire qui est ici, toutes les petites salvias qui sont des salades sauvages. Et ben en fait, vu que le champ d'à côté, il est labouré et il est en agriculture, on va dire, biologique, mais il laboure quand même, ben on a énormément de problèmes d'ambroisie. Et l'ambroisie, c'est une plante ici qui est très allergisante et qui est très invasive et qui caractérise bien souvent des sols en fait qui sont labourés. Et donc cette barrière naturelle, même si c'est pas beau, et ben en fait moi elle me permet non seulement de voir combien d'espèces se développent naturellement ici. Donc j'ai de la chicorée, il y a de la saponaire, il y a effectivement un petit peu de ciguë par ici, il y a du chardon, il y a des vignes sauvages, il y a de l'artémisia commune qui est très fréquente ici. Et en fait, bah, j'ai pas d'ambroisie. Donc là, je dirais entre 2 mètres là et ici, là il y a de l'ambroisie et par ici il n'y a rien du tout. Donc utilisons la biodiversité plutôt que des pesticides ou des herbicides. Voilà, donc ça c'est déjà le début. Ici, c'est aussi une parcelle que j'expérimente. Donc en fait, tout est expérimental ici, dans toute la ferme. Donc tu vois, il y a des pieds de tomates qui sont plantés au pied du noisetier. Et cette petite parcelle-là, elle est beaucoup plus, par exemple, elle qualifie plus un sol forestier. Donc par exemple, au microscope, quand je vais faire les prélèvements, et quand je vais vous apprendre à faire les prélèvements avec la petite carotte et après à regarder avec le microscope, on va voir des micro-organismes différents ici par rapport au champ.
Ouais, ce sera des micro-organismes qui seront différents en fonction du biome, entre guillemets, présent sur le milieu. Du coup, là, tu disais plus un type forestier.
C'est un type forestier, donc on va avoir par exemple une dominante de mycorhizes beaucoup plus importante qu'une dominante bactérienne, par exemple.
Tu as beaucoup de sols différents ici. Tu as le sol forêt.
Ouais.
Et du coup, tu as quoi d'autre comme sol?
Alors, justement, la notion de sol, elle est très importante. Il n'y a pas un sol, il y a des sols. Et par exemple, le pH d'un sol sur un mètre peut changer. Tu vois, si tu fais une prise de mesure de pH, par exemple ici, tu vas peut-être avoir un pH à 7,5, 8. Surtout qu'ici, on est vraiment dans de l'argilo calcaire et voire de la glaise. Donc, on est sur une ancienne colline de Potier à Dieulefi. Donc, on est à fond de la glaise. On est bien en termes de glaise. Et donc, on va voir qu'il n'y a pas un seul pH du sol, mais plusieurs. Il y a plusieurs sols. Et même la composition géologique d'un sol, elle change d'un mètre à l'autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on fait des analyses, en tout cas moi, quand je fais des analyses dans la zone de maraîchage, qui est la parcelle expérimentale, je vais faire 20 prélèvements pour essayer d'avoir une tendance, on va dire, une moyenne de voilà quelle va être la composante générale du sol. Et en fonction de l'endroit, de ce que j'observe, en mesure géologique, en pH et au microscope, eh ben, on va adapter et les pratiques agricoles en fonction de ça. Voilà, hein, ça, vous avez pris du café, j'espère.
Ouais.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica.
Pour le coup, c'est vrai qu'on est venu du coup il y a un an et demi maintenant, ça va
un
être...
Un an et demi, ouais. Ouais. C'était janvier 2020.
C'est ça.
Ça
et on faisait face à un terrain où tout était à faire. Et bah là, on est juste épaté parce qu'on a sous les yeux une serre qui est terminée, qui est fonctionnelle. Et bah on a contribué à ça et ça fait juste tellement de bien en fait de voir qu'on peut, ne serait-ce qu'à notre échelle, et avec le peu de connaissances qu'on a au début, parce que c'est vrai que nous, on est venu sur le chantier participatif avec pas forcément des compétences précises, que ce soit du coup en menuiserie, en charpente ou quoi que ce soit. On a juste contribué avec nos petites mains et le fait de pouvoir contribuer à ce type de projet est vraiment enthousiasmant et encourageant pour la suite, quoi.
Surtout quand on voit ce que ça donne juste un an et demi après, ça a tellement changé.
Qu'est-ce qu'on fait? On y va dans la serre?
Ouais, on en meurt d'envie là. C'est parti.
Oh là là.
Et dans la serre, nous allons découvrir le système de microbioponie. La microbioponie, qu'est-ce que c'est?
Le système de microbioponie, c'est un outil de transition agricole. Il consiste à cultiver des micro-organismes et cultiver des plantes en eau dans un circuit d'eau donc fermé et de l'eau de pluie. Cet outil de transition, il est à la fois alimentaire, parce que tu vas pouvoir cultiver des plantes et les manger, donc tu peux faire de la potagère. Il peut être aussi commercial, rentable, par exemple si tu fais de la plante médicinale ou du chanvre de construction. Et la deuxième fonction, c'est la fonction régénérative, c'est-à-dire que les micro-organismes que tu vas cultiver dans ce système, tu vas pouvoir inoculer ton sol, réensemencer ton sol quand il est en déficience microbiologique. Des petites parcelles bien sûr. Donc on reste pour de l'horticulture et des maraîchers à quelques hectares. Et pour les grandes surfaces, on utilisera la construction de compost et de thé de compost. Donc la microbioponie, c'est un outil de transition, un outil tampon, une sorte de 4x4 de l'agriculture, en eau.
Alors, est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que ça sent mauvais?
Bah non.
Non.
Voilà. Et bien, est-ce que vous vous rendez compte, en fait, ça fonctionne avec de l'urine. Donc en fait,
je sens pas du tout l'urine.
Voilà. Ouais. Et le secret, c'est de toujours mettre l'eau en mouvement. Et voilà, vive les urines. Bah, les urines, elles sont très riches en phosphore, en nitrate, en potassium, et pas que. Donc comme je vous expliquais, les analyses nutritionnelles qui ont été réalisées sur les tomates, qui ont poussé au mois de janvier, février, mars ici, et qui ont été plantées l'année dernière, eh bien, on les a envoyées donc à un laboratoire européen certifié. Nous, on a des qualités nutritionnelles qui dépassent en fait les qualités nutritionnelles de tomates faites en terre. Donc c'est quand même hyper important.
Vraiment que d'urine, vous avez d'urine et de l'eau?
Ah, c'est de l'eau.
Ah, oui,
c'est principalement de l'eau, ouais. Oui, oui, oulala.
Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'urine.
C'est ça. J'ai une maison tapissée partout, même dans les toilettes.
Donc ici, c'est le système de microbioponie. Alors, j'ai fait de l'aquaponie pendant environ 7 ans. Donc pour le coup, j'ai pas trouvé ça très résilient, j'ai pas trouvé ça très sympa non plus. J'ai trouvé qu'il y avait des limites, en fait, dans ces systèmes-là. Et j'ai un peu rechangé, j'ai fait à ma sauce tout d'abord d'autres systèmes. Que ici, c'est à la base un système d'aquaponie régénérative. Mais en fait, ça s'est transformé en système de microbioponie. Parce que sur 7 années en fait, de recherche et de pratique dans le milieu en eau, donc de culture en eau, eh bien, je me suis dit qu'on allait enlever les poissons. Ou alors que les poissons devaient avoir une fonction uniquement de fournir des nutriments, en aucun cas être dans de la pisciculture. Et ici, on n'a pas de poissons. Regarde.
Il n'y a pas de poisson.
Il n'y a plus de poisson. En fait, ici, on en est arrivé à... j'ai progressivement modifié les protocoles expérimentaux. Et donc, je me suis dit, mais attends, si l'aquaponie, ça marche avec la déjection de poissons, qui est franchement des fois très pathogène par rapport à la nourriture en granulé. Bref, il y avait beaucoup d'incohérences. Et moi, je voulais vraiment être ultra locale, ultra résiliente. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais ma pisse, en fait, c'est bien. Et donc, et c'est en fait une solution qui s'ignore. Et en fait, elle s'en va dans des stations d'épuration, qui les bouts des stations d'épuration sont achetés par d'autres entreprises pour être... Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, on va remettre le cycle en circulation, comme nous faisaient nos anciens. Nos anciens, ils mélangeaient les urines en Europe et ils les utilisaient. En Asie, les urines sont hyper précieuses. Donc en fait, les urines, c'est quand elles sont bien sûr traitées à la source, c'est-à-dire si tu me prends une pilule avec des antibiotiques, un traitement t'oublies. Tu gardes tes urines, s'il te plaît, tu les envoies en station d'épuration. Mais si tu as un régime, par exemple, ce qui est mon cas, végétarien slash végétalien, je ne prends jamais d'antibiotiques, je fais partie de mon protocole expérimental, donc je fais des prises de sang régulièrement pour savoir qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai une carence en fer, est-ce que j'ai une carence en ça, et bien on le retrouve dans le système. Donc en fait, l'objectif, c'est d'utiliser ces urines, de valoriser l'utilisation des urines en terre et en eau, de pouvoir, à partir de ces urines, ici, dans ce que j'appelle la biofiltration, créer et cultiver des micro-organismes, d'où le terme microbioponie. Et à partir de la culture de ces micro-organismes, on va pouvoir cultiver des plantes en eau, en circuit entièrement fermé, puisque l'eau part depuis la pompe ici, arrive dans le système. Là, ici, on a deux petites pompes à oxygène. C'est parce qu'il faut toujours rester en condition oxygénée, c'est-à-dire vraiment du mouvement, de l'oxygène. C'est ce qui va t'empêcher d'avoir des problèmes de zone anaérobie, donc sans oxygène, et d'avoir des pathogènes. Donc, pathogène égale pas d'oxygène plus stagnation de l'eau, ou stagnation de l'eau, comme dans le sol. Voilà, pour faire simple. Et donc, l'eau passe, et après, elle revient ici, dans la cuve.
Et l'eau circule tout le temps, en fait?
L'eau circule tout le temps. Moi, j'aime à ce que l'eau circule tout le temps. Vu que c'est une station expérimentale, je pousse le système hyper loin. C'est-à-dire une chaleur extrême. Quand il faisait moins de 12 degrés ici, j'ai ouvert la serre pour observer comment est-ce que la géothermie de l'eau allait baisser, à partir de quand les plantes faisaient la tronche. Donc en fait, ici, on est vraiment dans une station où est-ce qu'on va tirer un maximum sur le système pour voir en fait ses limites, et après, avec le traitement de données, voir les fonctionnements optimum. Et on n'a que du low-tech, donc ça, c'est une ancienne fosse septique qu'on a nettoyée, qu'on a semi-enterrée. Donc là, il y a 4 millilitres à peu près d'eau qui circule. Ça, c'est des anciens bidons d'une laverie. Ça, c'est de la palette. On a installé le système électrique, comme tu peux voir à droite, qui est hyper important, qu'il soit hyper protégé, en fait. Donc, au niveau des normes, c'est hyper important. On installe aussi Bah, ce système, comme ça, il va supporter les tuyaux. Donc ça, c'est des tuyaux en PVC. Mais en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des tuyaux en argile. Mais l'objectif, c'est d'utiliser ce qu'on a sous la main.
Et là, en gros, c'est du tuyau PVC qui a des trous tous les 30 cm, je dirais.
Oui, tous les 30 cm en quinconce. Et donc, c'est nous qui avons fait les trous pour pouvoir mettre les petits paniers avec les billes d'argile et implanter les plantes en eau. Donc, par exemple, là, ça va faire 3 semaines que je n'ai pas apporté un apport nutritif dans le système. Donc là, par exemple, ça va être le moment justement de collecter les urines fraîches. Et en gros, après, de faire les mesures d'eau tous les matins, les prises de température et d'observer aussi les systèmes racinaires. Par exemple, attends, une petite plante là, celle-ci, elle est plus... tu vois, au niveau du système racinaire, on regarde, est-ce que ça va bien? Et là, ça va bien. Donc l'objectif, c'est vraiment d'observer, de noter et de savoir comment le végétal se comporte. Puisque des fois, on a 32 degrés au niveau des racines. Et normalement, théoriquement, à 22 degrés, les plantes ne poussent plus. Normalement, le sol, il garde une géothermie de 13 degrés et pas plus, quoi. Et là, on a des plantes qui continuent à pousser avec des racines qui ont 32 degrés. Par contre, elles sont lentes. Là, il y a un ralentissement, mais elles ne meurent pas. Donc, en fait, c'est aussi hyper important d'étudier la résilience des plantes. Donc, on observe tout ça dans ce système-là. Et en hiver, ça te permet de manger. Là, on n'a que 9 mètres carrés de lit culture, c'est petit, ça produit 480 assiettes par an. Donc, si on avait 5000 mètres carrés, par exemple, de lit culture, pour une ville, pour faire ça pour, par exemple, une ville avec un parking, on aurait 240 000 assiettes végétales. C'est énorme. Et donc, si tu décentralises, hein, parce que l'idée de faire des grandes structures, ce n'est pas mon kiff, l'idée, c'est de décentraliser, de faire des petites ceintures alimentaires. Et si tu décentralises ce type de dispositif dans des cités, dans des endroits où tu n'as pas accès à la nourriture, ou alors dans des endroits qui ont eu des catastrophes naturelles, bah, tu peux arriver à avoir une production et à avoir à tamponner, on va dire, le problème d'une pénurie. Et donc l'idée, ça serait que installer ça aussi dans les villes, à différents endroits, en cas de problème, on ait un système tampon. Donc ça, c'est voilà, c'est l'étude de cet outil de transition de la microbioponie. C'est pas la finitude, c'est pas le but du projet, c'est pas de remplacer le sol par du hors-sol, comme j'expliquais. L'objectif, donc là, on va aller dans le champ, c'est de pouvoir... L'objectif, c'est de pouvoir permettre au sol d'avoir le temps de cicatriser. Et donc là, on va aller voir l'état du sol. Donc il y a 2 ans, je vais vous faire voir, c'était un peu une cata. On a le petit chemin, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, il y avait un petit chemin qui montait par là.
Voilà, donc en été, en fait, non. Parce que justement, et heureusement que je l'ai gardé, parce qu'avec les pluies, si je n'avais pas eu l'ensemble de ces plantes qui infiltraient l'eau plus profondément en terre, je pense qu'il y aurait eu des infiltrations.
Le temps aurait pu glisser.
Et oui, parce qu'un sol nu, c'est là où l'eau en fait va raviner, elle va lessiver le sol. Et tu as vu, on est en pente ici, on n'est pas sur un terrain plat. Donc la problématique du terrain en pente, elle est très complexe. Moi, c'était la première fois que je l'avais. J'ai toujours eu du plat au Vietnam, en Birmanie et ailleurs. Mais là, j'ai fait, mais comment je vais faire? Parce que si on décavait, entre guillemets, avec la pelleteuse, mais alors, j'avais un éboulement de terrain, un glissement de terrain. Vu qu'en plus, on est sur de l'argile, donc des particules très, très fines et très instables.
Facilement.
Et ouais. Donc en fait, c'est très important, tu vois, toutes ces herbes. Là, on a du trèfle, on a de l'avoine, de la chicorée, encore de l'armoise commune ici. Ici, on a encore de la salade sauvage. Et donc, en fait, tout... de ces plantes, même les graminées, et ben en fait ils ont un rôle hyper important qui est d'infiltrer l'eau dans les sols et donc d'éviter d'avoir des flaques ou d'éviter d'avoir des problèmes d'éboulement. C'est hyper important de toujours garder ton sol couvert, que ce soit par ce qu'on appelle de l'adventice. Donc les gens l'appellent mauvaise herbe, mais pour moi je trouve que c'est l'herbe du kiff en fait, parce qu'elle a une fonctionnalité très importante dans la régénération de ton écosystème. Et d'une année à l'autre, elles vont changer. C'est un peu comme des pansements, les adventices, quoi. Tu vois, les plantes qui poussent naturellement sur ton terrain, ce sont des plantes indicatrices qui te disent comment va ton sol. Et donc si tu les observes et que tu les écoutes et tu fais « pourquoi est-ce qu'elle est là ?» Et bien là, tu vas comprendre quel est le problème de ton terrain.
Rien n'est là pour rien en fait.
Rien n'est là pour rien, tout a une fonctionnalité, sauf que c'est nous qui avons ignoré ou qui avons perdu cette connaissance, mais nos anciens le savaient, et les anciens du monde entier le savent, surtout les peuples premiers, tous les peuples indigènes, autochtones, je sais pas, mais ils savent beaucoup plus, c'est entre guillemets les premiers agronomes du monde. Donc à 7h06, c'est juste magnifique, c'est pour ça que je voulais que tu viennes vraiment très tôt. Parce que bah, donc tu as les fleurs de pissenlit qui éclosent. Tu as vu là toutes les petites fleurs violettes ici, c'est de la chicorée. Et en fait, le matin, c'est juste magique. T'as toutes les fleurs qui s'ouvrent, les pollinisateurs qui arrivent. Puis l'après-midi, ça sera fort. Donc voilà, donc là, on va arriver dans la parcelle de champ. Alors, tout commence déjà ici. Je sais qu'il faut faire hyper attention parce que quand on arrive, au début, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est du grand n'importe quoi. Et non, en fait, ici, là où il y a le tilleul, c'est la parcelle témoin. C'est la parcelle sur laquelle il n'y a jamais eu de grelinage, d'amendement de crottin ou d'amendement en foin. Rien du tout, c'est la parcelle témoin. C'est là où je vais faire mes mesures pour comparer les systèmes entre ce système qui va se développer tout seul sans l'aide de l'homme. J'ai la chance d'avoir un agriculteur qui laboure à côté. J'ai un échantillon qui, dans la condition, laboure. Et puis, là où est-ce qu'on va aller dans la parcelle expérimentale, c'est là où il y a l'échantillonnage de, eh bien, quand je vais par exemple prélever des micro-organismes de mon système de microbioponie et les remettre dans le sol, qu'est-ce qui se passe? En plus de faire, sur certaines parcelles, les méthodes de l'agroécologie, tout en veillant à rester dans un cycle résilient local. Donc, on va éviter de trop amender, c'est-à-dire d'aller chercher 4 tonnes de foin à l'autre bout du monde pour aller le mettre sur un champ.
À la ferme Blue Soil, eh bien, quand on fait de la recherche, évidemment, on fait des relevés.
Alors ici, c'est le relevé des mesures qui se fait quotidiennement. Donc, par exemple, aujourd'hui, bah là, tu vois, j'ai déjà commencé, on est le 20 juillet, le temps, c'est ensoleillé. Relevé des températures, on avait 27 degrés dans l'eau, 19 degrés dans la serre, et en extérieur, on avait 16 degrés. Donc ça, c'est hyper important de faire les relevés. Après, ici, on doit faire les relevés du pH. OK. NH3, ammoniac, NO2, NO3 et le C, l'électroconductivité. Donc ça, c'est ensemble de tests. Et puis, les remarques, c'est hyper important de ce que vous observez. Telle plante a été cassée ou je vois ça apparaître sur les feuilles. Donc là, par exemple, on a vu que les plantes, là, elles ont besoin de réavoir des nutriments. Et là, on va faire le test de pH. Donc ça, c'est le minimum de mesures qu'on fait matin et soir avant. Mais maintenant qu'on est dans un autre protocole expérimental, on va faire une seule fois les mesures par jour. Ça suffit largement.
Okay, c'est la routine du matin.
Donc là, tu vois, normalement, tu vas remplir aux 3/4. C'est environ 3 pipettes, quoi. Tu prends ta pipette. Et tu remplis environ à ça. Pas plus, tu le cales bien. Et là, tu vas chercher dans les tests le pH. Alors, tu prends le pH avec les 3 gouttes, le bleu, parce que l'autre, en fait, le pH+, le high range, c'est lorsque tu es avec un pH qui est au-delà de 7,6. Normalement, là, il y a une stabilité du pH depuis qu'on a changé de protocole, qui est assez dingue. Donc voilà, tu as mis tes 3 gouttes. Tu mets un petit capuchon. Tu prends comme ceci. Et tu touilles. Là, tu peux te permettre de touiller comme ça, mais quand tu vas faire ta préparation pour regarder ton prélèvement de terre au microscope, tu vas plutôt être comme ça, parce que tu n'as pas envie de choquer les micro-organismes et de faire ça. Voilà. Et là, je suis en train de le faire, parce que techniquement, il y a des micro-organismes dans le liquide, mais là, ici, on mesure le pH, donc c'est OK de les secouer un peu, quoi. Mais quand tu veux observer les micro-organismes,
tu vas gentiment
dans ta dilution microscopique. Ici, on travaille aussi bien pour le potager familial à la grande échelle. Donc, sur de la très très grande échelle, on va travailler sur des tés de compost. Par exemple, 300 hectares. 300 hectares, on ne va pas pouvoir faire les mêmes méthodes que je fais ici. Sur 300 hectares, on va travailler avec une décompaction du sol qui va utiliser une certaine machine. Et de l'autre côté, après, on va voir à faire des tonnes et des tonnes de compost calibré au microscope, c'est-à-dire combien de micro-organismes j'ai par gramme de terre, enfin par gramme de compost. Et une fois que je vois les bons micro-organismes dans ce compost-là au microscope, je valide le compost et là, on va épandre. Voilà, donc ça, c'est une autre manière de remettre du microbiote, on va dire, du sol dans le sol.
Ah, on en parle du microscope. Il serait peut-être temps d'aller le voir.
Là, c'est le fameux bébé, donc le microscope, qui a une magnification de x10, x40 et x100. Et en général, on a juste besoin de magnification x40 pour observer les micro-organismes du sol dans la description. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire de l'analyse, on est juste en train de regarder qu'est-ce que j'ai dans mon sol et comment ça se passe et qu'est-ce que je dois faire après pour améliorer mon sol en fonction des micro-organismes que j'ai trouvés. Donc là, on fait bien attention, on est bien centré et on fait pas n'importe quoi. En gros, parce que le microscope, il a un petit prix, mais pour le coup, il a un petit prix par rapport à mon budget. Mais en fait, un microscope juste avec une magnification de 40 x 40, ça coûte dans les 300-400 euros. Donc imagine si on peut mutualiser un microscope avec des copains chercheurs ou des copains agriculteurs ou des copains, on s'en fout, des copains qui ont un potager. C'est pas si cher que ça et tu peux y avoir accès, donc tu peux démocratiser. Là, celui-ci coûte un peu plus cher parce que on peut aller plus loin.
300.
Voilà. Alors, donc ici, ça c'est ma mesure, ok? Donc ça fait 1,25 millilitres, ok? Donc ça c'est les petites lamelles sur lesquelles je vais préparer, déposer mon échantillon. Ça c'est mon tube où je vais mélanger la terre avec ma dilution.
Ah, faut diluer la terre, on la met pas comme ça?
Ouais, exactement, on la met pas comme ça, faut préparer l'échantillon, ça s'appelle une dilution.
Là, et c'est tout l'intérêt du microscope et de ses recherches, nous allons changer d'échelle.
Il y a du monde. Donc en x40, j'arrive à peu près à voir qu'est-ce qui grouille en dessous, à identifier. Et l'objectif, c'est de regarder quels sont les organismes que tu as dans ton sol et à quelle chaîne alimentaire on en est. Ah, bah là. Oh, bah là. Là, on a par exemple un agrégat avec une hypothèse de champignons. Donc, si tu veux venir regarder. Et on a les petits points tout petits là qui bougent. Deux hypothèses. Soit c'est une particule d'argile, soit c'est une bactérie. Parce que souvent, les bactéries, elles ont la même taille que la particule d'argile.
Elles se déplacent de la même manière, les particules et les bactéries ?
Normalement, non. Les bactéries se déplacent plus que la particule, mais vu qu'on est dans une dilution, il faut toujours émettre l'hypothèse que bah, le liquide bouge.
Oui, ça peut influencer.
Donc ça, c'est suspicion de bactéries.
Bon, on dirait des bactéries de mes yeux non avertis qui n'ont pas.
C'est là que c'est important de prendre le temps de bien d'identifier. Normalement, quand tu identifies, tu prends une feuille, tu marques tout le nom des micro-organismes. Tu marques leur description, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est petit, comment ça bouge. Par exemple, les nématodes, t'as pas envie d'avoir des nématodes qui bouffent des protozoaires, quoi. T'as certaines nématodes qui sont bénéfiques, mais t'en as beaucoup qui sont hyper... qui sont pas du tout bénéfiques. Et bon, tu les reconnais parce qu'elles ont une bouche particulière, il y a plusieurs types de nématodes.
On voit leur bouche.
Oui, pour certains micro-organismes, oui. Mais là, les bactéries, c'est compliqué.
Tu veux regarder ? Ouf.
Il y a tellement, tellement, tellement à découvrir que je vous invite à passer sur le site bluesoil.org.
Je pense qu'avec les temps actuels qu'on est en train d'avoir, j'aimerais vraiment bien pouvoir en fait démocratiser déjà l'utilisation du microscope, démocratiser aussi les sciences, créer des ponts entre les savoirs scientifiques et les savoirs pratiques agricoles. Et former les futurs actifs agricoles aussi. Et à l'heure actuelle aussi, je pense que c'est hyper important qu'on travaille là pour le coup le microbiote social et que les gens se mettent à travailler en cohésion et en cohérence ensemble autour de l'alimentation, mais qui est aussi intrinsèquement lié au délai de régénération des écosystèmes. Donc il va falloir être inventif, créatif et travailler ensemble. Ouais.
Merci pour leur participation bien involontaire à Clarica, Hall de la Fée Monsieur D, Bobby Lapointe. Musique additionnelle, John Bartman.
Positive Onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. info sebdihl.fr, sebdihl.fr.
C'est fini.